Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Bonsoir, bienvenue dans l'émission antimilitariste contre toutes les guerres, si vis pacem, sur Radio Libertaire 89.1. À vos stylos, prenez note de ce que vous allez entendre, en tout cas ce qui vous semble important, et soyez sûr qu'on ne s'est pas fichu de vos gentilles têtes. Très intelligente, mais souvent on ne sait pas s'en servir. Voilà. Nous sommes trois ce soir. Elsa.
Bonjour.
Ariel pour la musique et la régie.
Bonjour, bonjour.
Et puis Suzanne. Voilà. Alors, la guerre, encore la guerre. En 2023, le combat pour la paix n'est pas gagné. Mais il n'est pas perdu non plus. Tant que les pacifistes, les hommes et les femmes, épris de fraternité universelle, restent debout. Rappelez-vous la pensée de Gandhi. Un seul homme debout et conscient fait plus peur au va-t-en-guerre que 2 millions d'insoumis endormis. Ariel et Elsa vont vous lire 2 éditoriaux et après, nous avons comme grand sujet durant toute l'émission l'objection de conscience en Biélorussie, en Russie, en Ukraine, qui est à nouveau criminalisée, bien que tous ces trois pays aient inscrit dans leur constitution le droit à l'objection de conscience. C'est un scandale. Et puis aussi la militarisation des enfants et les sociétés privées militarisées, genre Wagner, voilà. Du berceau jusqu'au tombeau, l'armée vous tient chaudement dans ses bras avant de vous refroidir.
Je ne veux pas être un obstacle à votre bonheur. Adieu. Vivez en paix. Croissez. Et...
Danser les tangos déstabilise les généraux qui ne marchent qu'au pas.
Ils sont trop handicapés pour percevoir les chants d'horreur. La guerre, c'est ça, avant le cri des hommes. Le sang versé, les tombes, les larmes infinies qui suintent des villes, les maisons détruites, les hordes apeurées. La guerre est un vacarme à briser les crânes, à écraser les yeux, à serrer les gorges, jusqu'à ce que l'air renonce. Chalandon, le quatrième mur. Qui peut croire à la protection par une armée ? Terrorisés, torturés, mutilés, tués, est-ce que c'est cela défendre ? Le port des armes n'apporte que des assassinats. Du LBD au minidrome, des chars aux canons, des sous-marins nucléaires aux bombardiers éponymes, tout est à jeter. Dictateur. Leur Noria tient sur un pullulement des gendarmes. Le 16 septembre dernier, la police des mœurs a assassiné Maha Amini, une Kurde de 22 ans, puis arrêté 3000 Iraniens indignés. Ce courageux soulèvement vaincra-t-il une tyrannie religieuse, totalitaire et nucléaire ? La catastrophe planétaire se rapproche, d'autant que les chefs de l'armée russe jouent à la fin des haïkos pour prolonger son opération spéciale en Ukraine. Destin. Valse des stocks zéro. La course à la mort fait exploser les tarifs de l'énergie. Le coût moyen du transport d'un conteneur a triplé en un an. Le crash majeur impacte-t-il le commerce international, les trafiquants d'armes et de drogue, la richesse soudaine des hauts gradés, le triomphe des milliardaires et des méga-entreprises ? De quoi ouvrir les yeux sur la prétendue fatalité de la famine. Pourquoi ne pas renvoyer aux chefs d'État leur discours sur l'extrême simplification du monde ? Refuser la banalisation à l'outrance, une urgence morale, brute ou pacifiste, le choix est clair. L'armée racole jusqu'à l'école primaire. Parents, n'achetez pas des jouets guerriers aux bambins. Planquez vos enfants si vous voulez qu'ils survivent à la Troisième Guerre mondiale. Selon Macron, le SNU, Service National Universel, doit être obligatoire dès l'âge de 15 ans. Sont concernés 4,2 millions d'ados à saouler de sang impur. Trop de soldats partent en retraite. Généraux et préfets s'attellent sans murmure à exécuter l'ordre du chef. Les sucres d'orge pleuvront s'ils réussissent à enrôler des tueurs professionnels, à saturer la France de réservistes et de collabos. Le SNU, 15 jours de colonie en uniforme, suivi, surprise, d'un stage dans des corps militarisés. Cette propagande de guerre fait la campagne non au SNU, la priorité de 2023. Diabolique. Java d'associations de malfaiteurs à l'immunité garantie. Quand sera abolie la servilité de 205 000 soldats et 225 000 policiers ? La sécurité des Français y gagnerait bien plus que des milliards d'euros. La ruine des fabricants d'armes mettrait sur le carreau 200 000 salariés du meurtre à reconvertir. Éradiquer l'extrême pollution de l'air, EADS, Airbus, Safran, Dassault, de la terre, Nexter, Blindes, Arcus, SNPE, GIA, Armeville, Panhard, Renault, de la mer, DCNS, Naval Group, Thales, Sagem, Missile, MBDA. Tel est notre meilleur vœu en 2023. Le désarmement unilatéral peut, comme la mobilisation générale, se réalisait d'un coup de clairon pour l'entendre sonner, soutenons et diffusons l'Union pacifiste.
En écrivant à notre adresse postale, Union pacifiste, section française de l'Internationale des résistants à la guerre, boîte postale 40 196, Paris-Cedex 13, code postal 75 624. Et vous pouvez nous appeler au studio pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Et Elsa va vous lire quelque chose de Greenpeace.
Voici l'édito du journal La Bannière, rédigé par Jean-François Julliard, qui est le directeur général de Greenpeace France. Il s'intitule « Garder espoir ». Il est particulièrement difficile, cette fois-ci, de se soumettre au rituel des vœux pour la nouvelle année. Que pouvons-nous nous souhaiter collectivement pour 2023 ? Depuis bientôt 3 ans, le monde est en proie à des crises inédites et complexes. Entre la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, l'accélération de l'urgence climatique et l'inflation, nous avons rarement navigué en eau aussi trouble. J'aimerais penser que 2023 sera l'occasion de ramener la paix dans les villes et campagnes d'Ukraine et d'ailleurs. N'oublions pas que les guerres qui continuent de sévir au Yémen et en Syrie notamment. J'aimerais aussi imaginer que les mois à venir seront ceux de la prise de conscience globale des crises environnementales. Nous devons enfin sonner la fin des énergies fossiles. Le pétrole, le charbon et le gaz ont nourri nos sociétés depuis plus de 2 siècles. Mais cette époque-là est révolue. Nous devons nous désintoxiquer et inventer de nouvelles façons de vivre qui ne reposent plus sur l'extraction des ressources naturelles. Le climat, mais aussi notre air, notre eau, nos sols et la nature ont réellement besoin de cela pour que la vie se maintienne sur Terre. À notre mesure, avec nos moyens et notre détermination, nous nous emploierons à convaincre le plus grand nombre qu'il faut agir plus vite et plus efficacement.
Merci Elsa. En effet, la paix ne peut tomber ni avec les bombes, ni elle ne peut tomber du ciel. Elle vient de nos cœurs et d'un état d'esprit pacifique et pacifiste. Or, à notre époque, nos décideurs, nos systèmes éducatifs carburent à l'esprit agressif, militariste. On fabrique des ennemis. Or, pas de soldats, pas de guerre, comme disait Olga, dont je vous parlerai tout à l'heure, une grande pacifiste de Biélorussie qui nous a accordé une interview il y a quelques jours à Maurice Montet et à moi. Et vous allez voir, elle nous a donné du courage. Pas de soldats, pas de guerre, pas de second front en Biélorussie pour augmenter les fureurs et les méfaits de Poutine. Pas d'escalade par un second front. Comme nous sommes en France, nous avons des lumières qui nous viennent de très loin, de plusieurs siècles. Et je pensais que beaucoup d'entre vous vont reconnaître l'auteur de cette maxime que je vais vous lire et qui s'applique parfaitement à M. Biden, Poutine et tous leurs associés. Où l'ai-je mise ? Voilà. Les querelles ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté. Cette maxime a été écrite au XVIIe siècle. Si vous savez qui l'a écrite, vous aurez un abonnement d'un an gratuit à l'Union Pacifiste France. Les querelles ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté. Voilà, on va vous faire écouter une chanson.
Papa Noël, toi qui es si bon, t'as encore oublié les gamins de Saïgon. Les mines antipersonnelles leur ont laissé que des moignons. C'est certainement pour ça que t'as pas trouvé leurs chaussons. Tu sais, Papa Noël, qu'il y a des gentils messieurs qui aiment bien les enfants et qui sont généreux. C'est des vrais cinéfilms qui mettent sur Internet des gosses et des vieux fossiles qui font des jalipettes. Gentil Papa Noël, même les petits enfants passage, tu leur files du boulot, malgré qu'ils ont pas l'âge. Dans tous ces pays-là, où c'est qu'on crève la faim, il faut en profiter pour faire trimer les lutins. Merci pour le réveillon, mais on a trop bouffé jusqu'à l'indigestion. Quand je pense qu'en Afrique, ils se plaignent de la famine, c'est pourtant pas sorcier de faire de la cuisine. Petit Papa Noël, y a 120 millions d'enfants à traîner dans les rues. Qu'est-ce qui foutent les parents? Préfèrent mieux s'amuser à respirer de la colle. Ils pensent qu'à rigoler, il ferait mieux d'apprendre à l'école. Quand même, Papa Noël, toi qui tires les ficelles, tu pourrais dire deux mots à notre Père éternel. Il faudrait qu'il s'occupe un peu mieux de sa clientèle. C'est quand même pas normal qu'il y a des gosses qui monte au ciel.
Qui a trouvé l'auteur, le nom de l'auteur de cette maxime du XVIIe siècle? Les querelles ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté. Poutine, il dénonce les menées guerrières de l'OTAN et l'OTAN dénonce l'agression, les violations des frontières de l'Ukraine par la Russie. On n'en sort pas. Les gens sont bercés de discours héroïques et ignorent, sont tenus, maintenus dans l'ignorance des terribles conséquences de la guerre, qui n'est plus du tout héroïque une fois qu'on a été totalement mutilé, traumatisé et qu'on garde des séquelles jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, la vie est lourdement abrégée quand vous souffrez d'un syndrome de stress post-traumatique. Et ça aussi, ça se fabrique en ce moment en Ukraine. Elsa va maintenant vous lire un petit compte-rendu abrégé qui nous parvient de Our House. Our House, comme vous savez, c'est notre maison. C'est une association humanitaire ukrainienne animée par Olga Karash, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que nous avons eu l'honneur d'interviewer avec Maurice Montet il y a quelques jours. Elle a reçu en Allemagne un grand prix international des droits de l'homme à Weimar, la grande ville de Goethe et de Schiller. Mais elle a reçu en 2007 déjà un prix d'Amnesty International et plein d'autres prix pour la récompenser et pour reconnaître tous les efforts qu'elle fournit pour la paix. Et donc elle est de Biélorussie et Our House a son siège dans sa capitale à Vilnius. Donc cette association défend les droits humains et est aussi un centre international pour encourager les initiatives citoyennes. Alors, Olga nous a fait parvenir cette information sur les sociétés militaires privées, abrégées SMP, Wagner, vous en avez entendu parler déjà depuis pas mal de temps. Ils agissent pour notre compte aussi en Afrique et ailleurs. Eh bien, la Biélorussie et son président, M. Loukachenko, ne s'en privent pas. Et elle a beaucoup de sociétés écrans. Il y en a 3 ou 4 différents noms. Vous les entendrez cités par Elsa.
La société militaire privée, SMP russe Wagner, agit dans le langage des services spéciaux, opère librement au Bélarus. Il s'agit de la société qui est devenue célèbre pour ses crimes de guerre dans le monde entier et plus particulièrement pour sa participation à l'agression russe contre l'Ukraine. La société Guard Service est la première société de sécurité privée biélorusse qui a été autorisée à porter et à utiliser des armes par un décret spécial de Loukachenka. Pour l'instant, la compagnie compte plusieurs centaines de personnes, jusqu'à 500. Beaucoup d'entre eux ont une expérience de combat acquise en Syrie, en Ukraine et dans les pays africains. L'organisation a un lien direct avec Loukachenka et son collaborateur de longue date, Viktor Sheyman. Une source au sein de Guard Service a déclaré aux journalistes que le 31 juillet 2022, 20 à 25 personnes du célèbre SMP russe Wagner sont arrivées à Minsk pour former les employés ordinaires de la société de sécurité biélorusse. Selon un employé de Guard Service, la formation de base a eu lieu sur le territoire de l'ancien centre d'entraînement spécial de la société sportive Dynamo. Ce bâtiment est situé à Minsk. À l'époque, les Wagneristes devaient rester à Minsk jusqu'à la fin août environ. Cependant, le 14 août, dans un avion lié à Wagner SMP et au chef de Poutine, Yevgeny Prigozhine, pour la prononciation, s'est envolé pour Minsk. Un employé de Guard Service a déclaré que cet avion avait pris certains des instructeurs et en avait amené de nouveaux. En 2019, la société Bell Security Group a été créée sur la base de la société Global Custom Management, qui était alors codétenue par Anna Pushkareva. En janvier 2020, la société Bell Security Group a changé de nom pour devenir Guard Service et en juin de la même année, Alexandre Loukachenko en a fait la première organisation de services privés ayant le droit de porter et d'utiliser des armes. Mais dans tous les cas, tout semble indiquer que les employés de Guard Service sont préparés à la guerre en Ukraine du côté de la Russie. Tout concorde, promesses de salaire élevé, promesses de mission, instructeurs, formation, armes, etc. Tout ceci est confirmé par les services spéciaux ukrainiens. Ils sont sûrs que les mercenaires russes, avec les assistants biélorusses, peuvent organiser une provocation à la frontière biélorusse-ukrainienne. Selon eux, le 20 septembre, 130 mercenaires de la société russe SMP Liga sont arrivés à Minsk avec des armes personnelles et des munitions. Le 22 septembre déjà, 300 ensembles d'uniformes militaires ukrainiens que les Russes ont saisis dans des entrepôts de la région de Kherson ont été livrés sur le territoire de la société de sécurité privée biélorusse Guard Service où se trouvent les mercenaires. Selon la partie ukrainienne, un sabotage éventuel est prévu dans la région des villes de Pinsk, Ivanovo et Kobryn. De tels actes de sabotage font directement le jeu de Moscou qui cherche à attirer des forces supplémentaires dans cette guerre, en particulier le Bélarus. Aussi, selon un officier des forces armées ukrainiennes, Anatoly Stefan, le risque d'utilisation de groupes de sabotage et de reconnaissance, SRG, conjoint russe et biélorusse en Ukraine, est désormais très élevé, notamment dans les régions de Volyn, Rivne, Rytotsimir et Kiev.
Et donc Olga, qui est donc la coordinatrice de Our House, notre maison, association humanitaire biélorusse, qui a son siège à Vilnius, elle recommande et elle implore quasiment l'Europe de créer et d'ouvrir un corridor humanitaire aux objecteurs de conscience de Biélorussie. Parce qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Et elle voudrait même bloquer toute l'armée de Biélorussie, qui s'élève environ à entre 30 et 40 000 hommes en armes, pour que cette armée puisse être paralysée, être inexistante. Car pas de soldats, pas de guerre. Olga est considérée actuellement comme une terroriste par Loukachenko. Parce que, évidemment, ça le contredit et ça lui fait peur. Elle a, sur les médias sociaux, eu un succès fou. Des centaines de milliers de gens la suivent sur TikTok, sur Telegram. Et donc, elle n'est pas seule. Ce sont des organisations humanitaires très importantes. C'est un réseau évidemment international. Le pacifisme, qui est né il y a 101 ans en Belgique en 1921, est et a toujours été international, parce que la paix du monde, la paix globale, elle ne peut être que le fruit d'une coopération globale. Or, l'humanité n'a pas commencé son existence historique globalement, mais dans des petits groupes éparpillés à travers le globe et chacun faisant son petit royaume, sa tribu. Il n'a pas vu d'un bon œil quand il a découvert un autre groupe qui semblait menaçant. Les structures et les institutions des États actuels charrient et ploient sous le poids historique de leur passé brutal et violent. Et ce passé brutal et violent, il résulte d'une part d'une commune ignorance et d'une commune peur de l'inconnu. D'autre part, elle résulte évidemment d'un commun désir de s'accaparer les richesses dont disposent les autres, qu'on décrète alors comme ennemis à abattre. Nous en sommes, hélas, toujours là, en 2023. L'infantile combat pour la suprématie. C'est moi le premier. C'est bien aux Jeux Olympiques. C'est bien dans les compétitions sportives, au foot. Mais au niveau politique, c'est suicidaire, comme vous le savez tous. Nous en sommes, hélas, toujours là. L'infantile combat pour la suprématie du plus grand, de l'autodécrété plus fort à la plus grosse armée, de demeurer soumis, car non instruit en humanité. Objection de conscience. Pas de soldats, pas de guerre.
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés. Nous nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Alors, personne n'a encore appelé pour nous dire qui est l'auteur de cette maxime. Les querelles ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté. Je vous rappelle notre numéro, 01 43 71 89 40. À toi, Ariel.
Le tour du monde en 80 guerres. SNU et propagande. L'État a payé une page consacrée à sa secrétaire d'État chargée de la jeunesse dans un journal gratuit pour annoncer l'extension du service national universel. Lancé en 2019, le SNU aurait touché 32 000 adolescents durant l'année 2022. Il serait ouvert à tous les 15-17 ans qui voudront y participer en 2023. Chaque jeune aura ce droit car il doit savoir que son pays a besoin de lui. En 2023, le budget du SNU augmenterait de 30 millions pour atteindre 140 millions. Sachant que chaque ado coûterait 2114 euros, la dépense correspondrait à 64 000 volontaires en 15 jours entièrement pris en charge. Il faut aussi rappeler que les jeunes bénéficient d'une formation gratuite en ligne au code de la route et se voient offrir les frais d'inscription à l'examen. Des sucettes. Malgré tous ces prétendus avantages, les réserves persistent parmi les ados, et cela se comprend. C'est pourquoi la secrétaire d'État déclare enfin de lever les doutes. Nous allons organiser des réunions d'information avec les parents dans les lycées. Si le SNU devait être obligatoire, il faudrait présenter un projet de loi devant la représentation nationale. Compris les jeunes ? Futur porte-avions français. Il embarquera une trentaine de chasseurs, vieux Rafale et nouveau NMGF, c'est de fabrication franco-ibérique allemande, sans oublier des drones de combat et de surveillance. Présenté à Euronaval, au Bourget, il est baptisé pour le moment PANG, P-A-N-G. La mise à flot est prévue en 2038. Ce géant de plus de 5 milliards d'euros pèsera 7500 tonnes contre 4250 pour le porte-avions Charles de Gaulle. La concurrence est rude. Aux États-Unis, les 11 porte-avions actuels sont remplacés par de gigantesques 100 000 tonnes à 13 milliards chacun. Chine, le Fujian, troisième du genre, a été lancé en juin 2022. Le quatrième démarre. Turquie achève son premier porte-avions. Le Japon a converti l'un de ses porte-hélicoptères pour qu'il puisse déployer des chasseurs F-35. Au Royaume-Uni, après une longue éclipse, deux porte-avions sont opérationnels. Est-il besoin de rappeler la vulnérabilité croissante de ces énormes bateaux de surface ? La destruction du croiseur Moskva Va, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, par deux missiles ukrainiens, le 14 avril 2022, n'a pas servi de leçon. Pour rester crédible jusqu'en 2080, le Pang devra sacrément muscler ses arrières.
Ça reparaîtra après.
Description du système de camp militaire patriotique dit scoutisme loisir de vacances gratuit pour les enfants orphelins et les enfants de familles marginales.
En Ukraine et en Biélorussie.
Ces dernières années, le régime biélorusse a créé un large réseau de camps militaires patriotiques pour les enfants biélorusses. Elles existent sous diverses formes et sont subordonnées à divers organismes d'État. Cependant, ils remplissent la même mission, préparer les enfants et les adolescents à la guerre, promouvoir la culture militariste et la participation des enfants aux guerres futures. De plus, l'intensité de ces formations a fortement augmenté après la révolution biélorusse d'août 2020, puis après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le régime biélorusse est co-agresseur dans la guerre. Le 29 août 2022, le directeur adjoint du Centre républicain pour l'amélioration de la santé et le traitement en sanatorium de la population du Belarus, Alexandre Tsai, a informé qu'au cours de l'été 2022, 480 camps patriotiques militaires ont été organisés au Belarus par les bureaux du ministère des Situations d'urgence, du ministère des Affaires intérieures et du ministère de la Défense, dans lequel plus de 18 000 mineurs ont suivi le programme d'amélioration de la santé. Considérons le nombre total approximatif d'enfants au Belarus à la date du 1er janvier 2022 était de 1 848 000. Notre maison déclare par la présente que chaque 55e mineur au Belarus, ce qui équivaut approximativement à 2% en 2022 seulement, est passé par de tels camps militarisés et par conséquent a été illégalement impliqué dans divers groupes armés. Il convient de préciser que dans ces camps militarisés, les enfants se voient inculquer l'idéologie du soi-disant monde russe, y compris la rhétorique historique et culturelle propagandiste. En fait, ce camp est une préparation de 9 jours des enfants à devenir des réservistes militaires à part entière, légalement formalisés comme une récréation de santé de 9 jours pour les enfants. De nombreux faits le confirment. Par exemple, le nombre étrange de jours pour la récréation. La session d'été standard dans un camp ordinaire pour enfants dure généralement 18 jours. Voilà. Parfois, il y a des sessions qui durent 14 ou 12 jours. La formation militaire au Bélarus à l'époque soviétique, après laquelle les citoyens étaient enrôlés dans la liste de la réserve militaire, comprenait des disciplines diverses et variées, allant de l'apprentissage du maniement des armes aux gestes de secours aux blessés, ou savoir construire une cabane, etc.
Merci Elsa. Ce que vous venez d'entendre est un extrait d'un rapport envoyé par Our House, donc Notre Maison, cette association humanitaire biélorusse dont Olga nous a fait part au cours de l'interview. Nous l'avons évidemment abrégé. Et ce rapport ne contient que les informations confirmées par des sources publiques. Le régime biélorusse, en effet, procède à une préparation de masse intensive des enfants en vue de leur participation à la guerre aux côtés de la Russie dans le futur. Les enfants sont préparés depuis l'âge de 6-7 ans dans des camps militaires patriotiques étiquetés camps de vacances. C'est incroyable. Selon un programme spécial, ça vous rappelle rien, côté SNU,
si,
camp de vacances,
si,
colonie.
Si, tout à fait, c'est le même principe.
Voilà, mais qui inclut l'utilisation d'armes à feu. Des instructeurs tchétchènes de la Fédération de Russie participent à ces formations. Tous les camps patriotiques militaires de loisirs, c'est un terme qui est employé, ces camps militaires de loisirs patriotiques, donc, sont dirigées par des instructeurs tchétchènes et sont sous le contrôle des agences en uniforme du Bélarus et en premier lieu, donc, du ministère de la Défense. Une agitation intense et un lavage de cerveau des enfants avec l'idéologie du monde russe sont en cours et l'adjectif héroïque y fait fureur. Les enfants issus de groupes vulnérables et marginaux de la population, c'est-à-dire les plus déshérités, les orphelins et les enfants en situation socialement dangereuse, sont formés gratuitement, que c'est gentil, dans les camps patriotiques militaires héroïques, aux frais de l'État, car leur utilisation dans les actions militaires ne suscitera pas la résistance de leurs proches. Selon les statistiques des agences en uniforme, au cours de l'été 2022, donc c'est tout récent, plus de 18 000 enfants ont été formés dans des camps patriotiques militarisés de loisirs, dans lesquels des enfants âgés de 6 ans seulement ont appris à tirer avec des armes à feu, etc. Sachez que ces camps ne sont pas placés sous le patronage du ministère de l'Éducation, comme chez nous, ou du ministère de la Sécurité sociale, de mieux en mieux. Comment on pourrait s'y attendre, étant donné que des enfants vulnérables et sans protection sont concernés, des orphelins, chez nous, les enfants de la DAS, mais exclusivement sous le patronage des agences en uniforme du Bélarus. Le ministère de la Défense, le ministère des Affaires intérieures et le ministère des Situations d'urgence. Dans le Bélarus d'aujourd'hui, cette tâche a été assumée par les camps patriotiques militaires de scoutisme, on pourrait dire, et autres camps pour enfants de même type. En fait, le réseau de ces camps militaires patriotiques et de scouts au Bélarus est le signe d'une formation militaire de base obligatoire ou d'une formation préliminaire calquée sur le modèle de l'ex-URSS, l'Union soviétique, et d'autres pays post-soviétiques, dont le but est d'assurer que les enfants et les jeunes acquièrent des connaissances sur le service militaire et des compétences pratiques dans les affaires militaires, ce qui est une composante de la capacité de mobilisation de l'État, avec aussi des vidéos de propagande russe spécialement conçues pour un public enfantin. Il s'agit essentiellement de la militarisation des jeunes et des enfants et de leur future participation à une guerre. En Afrique, on fait ça depuis très longtemps, et on s'en est beaucoup, beaucoup ému dans les associations internationales de la protection de l'enfance. L'âge des enfants dans les camps militaires va de 7 à 14 ans, en général, c'est-à-dire exactement la période d'âge où les enfants sont particulièrement vulnérables à toute propagande, car ils n'ont pas encore d'esprit critique. Environ 60 camps sportifs et patriotiques ont fonctionné cet été, en 2022. Si je peux ajouter une parenthèse, l'esprit critique, une fois qu'il a été massacré à cet âge-là, il a du mal à réémerger ensuite. Ensuite, je continue la lecture donc de ce rapport de Our House. Les premiers camps militaires patriotiques et camps de défense et de sport pour enfants sont apparus en Bélarus en 2011, après l'élection présidentielle de 2010, de Loukachenko donc, qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, ce qui a donné lieu à des protestations de masse contre la falsification des résultats des élections et la dispersion sanglante des manifestations par les hommes de main de Loukachenko. L'apparition de tels camps militaires patriotiques pour les enfants a été réglementée par une ordonnance du ministère de l'Éducation. C'est encore bien, cette réglementation. Elle date du 19 juillet 2011. Ces camps patriotiques de défense et sportifs pour enfants sont souvent déguisés en camps de loisirs, de profil touristique. Il y a même un camp qui s'appelle camp touristique, patriotique, et d'études régionales. Il a été expliqué que les bases du travail d'un camp de loisirs de profil touristique, le voilà, et d'études régionales devraient comprendre, écoutez bien, l'acquisition de compétences de vie autonome en forêt, entraînement à la reconnaissance, orientation en terrain inconnu, la création de conditions confortables pendant la vie en forêt, l'organisation de la routine quotidienne du touriste, monter une tente, faire un feu de camp, fournir de la nourriture, etc. Ça ne sonne pas si étrange à nos scouts de France. Apporter les premiers secours pendant une randonnée, la navigation sur le terrain, la survie dans diverses conditions climatiques et dans des situations de vie extrêmes. Ils peuvent donc se familiariser avec des machines militaires, se tenir debout sur les armes de l'unité militaire et s'essayer même au combat à main nue. Conclusion de tout cela, de cette calamité qui détruisent l'humanité en nous. Le régime biélorusse a commencé à former intensivement les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Leur formation comprend l'apprentissage de l'utilisation des armes à feu. Deuxièmement, si l'Union européenne ne prend pas un certain nombre de mesures décisives, d'ici 3 à 5 ans, le Bélarus verra se développer une armée de diversionnistes, d'agents de reconnaissance et de combattants professionnels, préparés professionnellement et sachant utiliser des armes à feu, des fanatiques obsédés par l'idéologie du monde russe, des jeunes hommes sans liens sociaux, puisqu'ils étaient d'anciens orphelins, mais sans doute en reste orphelin toute sa vie, et sans famille, mais obsédés par le désir de vengeance, de destruction des nazis, de salut du Bélarus, de la « gay Europa », combinaison des mots « gay » et « Europe » au sens péjoratif, utilisé par la propagande, etc. La construction de murs à la frontière ou d'autres mesures restrictives, comme les interdictions de visa, n'arrêteront pas ce groupe, car il est initialement formé pour faire des diversions. Ça me rappelle, en fait, les janissaires de l'Empire ottoman, qui étaient des enfants arrachés aux chrétiens pendant la guerre, dans les conquêtes par les armées ottomanes. Et ce sont ces enfants-là, orphelins donc, arrachés à l'ennemi, tués, toujours des garçons, qui sont devenus ensuite les protecteurs les plus féroces de l'Empire ottoman. Nous devons, je continue la lecture de l'article, nous devons agir immédiatement. Notre maison, Our House, donc l'association humanitaire biélorusse, a élaboré une stratégie pour contrer cette activité du régime biélorusse. Nous sommes prêts à en discuter avec toutes les structures intéressées. Plus de 18 000 enfants, à partir de l'âge de 6 ans, ont participé à des camps militaires patriotiques de loisirs. Et on suivait donc une formation militaire. Our House perçoit cela comme une stratégie à long terme du Kremlin, en Biélorussie évidemment, pour la prochaine phase de la guerre en Ukraine et probablement sur le territoire de l'Union européenne. Dernière phrase, Our House appelle l'Union européenne et les organisations internationales des droits de l'homme à lancer immédiatement une campagne sérieuse contre l'implication des enfants biélorusses dans l'apprentissage des affaires militaires et contre la militarisation des enfants. Car dans 3 à 5 ans, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit.
Sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part.
Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
SNU 2022-2023, une préparation à la guerre. Le 13 juillet 2022, Macron a déclaré dans son discours aux forces armées : Je vous demande de faire davantage en donnant à nos réserves une nouvelle ambition et en investissant plus et mieux le grand projet du SNU que je porte. Je veillerai à ce que les ressources nécessaires y soient consacrées. Le 4 septembre 2022, le ministre des Armées Sébastien Lecornu déclare : Il y a un avant et un après 24 février, date du déclenchement de la guerre en Ukraine. La question de la résilience du pays en cas de conflit ou de choc majeur préoccupe les militaires. Ils savent très bien qu'ils auront besoin du soutien de tous pour remplir leur mission. En cas de menace hybride ou de crise, les réserves peuvent permettre aux armées de monter en puissance. Et il ajoute le 24 septembre, au Forum Normandie pour la paix, dans l'abbaye aux Dames à Caen, Calvados, La leçon de l'Ukraine, c'est que c'est un peuple résilient. Il faut qu'on réfléchisse à une dimension nouvelle du service national universel. Comment prendre une classe d'âge et la préparer à tous ces risques? Je pense qu'il y a un chemin autour de la vérité et du partage des contraintes. C'est ça, la résilience. Le 6 octobre 2022, Sarah El-Haïry déclare dans un entretien au journal Le Parisien: Le nombre de places ne sera plus limité. En 2023, tous les jeunes qui voudront y participer le pourront. Désormais, le SNU sera un droit pour chaque jeune, car il doit savoir que son pays a besoin de lui. Le 9 octobre 2022, l'ASAF, Association du soutien à l'armée française, annonce La SAF entend prendre part activement à la montée en puissance du SNU en contribuant avec ses moyens à aider à gagner la guerre avant la guerre. CF, général d'armée Thierry Burkhard, SEMA. Le président Macron poursuit donc avec les armées l'objectif dangereux qu'il avait clairement formulé 5 ans plus tôt quand il était candidat, mettre en place un service militaire universel afin de disposer d'un réservoir mobilisable complémentaire de la garde nationale en cas de crise et de renforcer le lien armée-nation. Depuis la mise en œuvre du SNU, le collectif non-SNU ne cesse de dénoncer l'embrigadement des jeunes qui doit faciliter le recrutement dans les armées et la gendarmerie. La préparation des esprits à de prochains désordres sociaux et à de prochains conflits militaires de haute intensité devrait favoriser, d'après le gouvernement, l'acceptation par la population d'un besoin accru de forces de répression et de forces militaires. Pour la session 2022, le dispositif a rencontré de sérieuses difficultés pour motiver les jeunes, 32 000 recrues au lieu des 50 000 prévus, convaincre les parents et les formateurs. Des personnels syndiqués de la jeunesse et des sports ont déclenché une grève pour ne pas être obligés de participer au SNU. Recruter des encadrants malgré les primes promises, peu d'enseignants étaient candidats. Sarah El Haïry a dû solliciter les armées. Pas formé pour s'occuper d'adolescents, le chef Alain M, lieutenant-colonel après une longue carrière dans l'armée de terre, et le cadre Jean-Pierre PG, lieutenant de vaisseau pendant 30 ans, ont provoqué un scandale dans un lycée de Strasbourg en imposant une punition collective nocturne à une centaine d'adolescents pour une faute commise par deux jeunes filles. L'affaire a fait grand bruit dans la presse locale et le directeur académique a quand même reconnu que la dimension collective paraissait inappropriée. Des responsables de centres n'ont pas tenu compte des problèmes de santé survenus les années précédentes au cours des expositions au soleil des adolescents pendant les cérémonies militaires obligatoires. À Vendôme, plusieurs des 150 jeunes alignés pour la cérémonie du 14 juillet ont été victimes de malaise. Le sous-préfet François Geoffroy en a conclu « Pour tous ceux qui sont tombés, c'est que vous êtes allés au bout de votre force. Il n'y a pas de mal à ça, soyez fiers. » Au lycée agricole du Bourbonnais de Neuvy, dans l'Allier, ce sont plusieurs jeunes sur les 174 au garde-à-vous pour la cérémonie d'ouverture qui se sont évanouis. Rien d'étonnant selon Alexandrine Ménégo, chargée de mission SNU dans le département de l'Allier. Ils n'ont pas l'habitude de rester debout aussi longtemps, environ 1h30, c'est très physique. Le journaliste du quotidien de La Réunion raconte « Dans les rangs, les quintes de toux se succèdent, agitant le spectre du coronavirus qui a dû mettre un terme au SNU guadeloupéen le 22 juin et à celui de Somme-Vesle dans la Marne mercredi dernier. Ce sont les effets du bivouac », temporise le préfet Jacques Pillan dans un sourire qui veut balayer les inquiétudes. Un jeune remarque « Je pense que c'est pour nous préparer à faire la guerre ». C'est pour nous préparer à faire l'armée. Lapsus, désolé.
C'est la même chose.
Oui. Un journaliste de l'Est républicain relate la remise des diplômes de fin de stage. Scène ahurissante, la rectrice d'académie de la région Bourgogne-Franche-Comté, Nathalie Albert-Moretti, passe en revue des élèves en uniforme et au garde-à-vous à Besançon. A dit... Le directeur du Dauphiné note « Le service national universel a le vent en poupe. Les jeunes volontaires du SNU sont arrivés au pas cadencé en chantant devant les autorités pour la cérémonie de clôture de la session 2022. Mmh. » À Montauban, le 14 juillet, la dépêche nous apprend que les jeunes du SNU ont défilé avec les régiments. À Pontivy, où 187 jeunes bretons ont fait leur SNU. La sous-préfète Claire Littard a déclaré, d'après Ouest France, c'est une alternative au service militaire. À Mayotte, les volontaires ont rencontré la Légion étrangère. Il s'agit d'un bon moyen d'avoir une première approche des métiers de l'armée, déclare un militaire. Le portefeuille de la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, qui inclut le SNU, est maintenant rattaché à la fois au ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Armées. Cette nouveauté, décidée par Macron, correspond à la volonté du président de favoriser le recrutement dans les forces de l'ordre. Les déclarations de plusieurs adolescents interrogés sur leur participation au SNU sont révélatrices. « J'aimerais m'engager dans l'armée et le SNU est une première expérience de la discipline et de la rigueur à avoir dans ce domaine », déclare le jeune JM qui fait son stage de cohésion à Cahors. Un grenoblois de 17 ans souhaite pouvoir faire sa journée d'appel le plus rapidement possible afin de devenir volontaire dans l'armée. La jeune K ajoute « J'ai pu rencontrer des militaires, ça donne des idées pour l'avenir ». À Montval-sur-Loire, une adolescente, actuellement en première année de cuisine restauration, hésite après son stage de cohésion. « J'hésite entre devenir pâtissière et intégrer l'armée de terre ». Et à Saint-Hermine, le jeune T conclut « La plupart d'entre nous souhaitent devenir pompiers, gendarmes militaires ou policiers ». Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, souhaite recruter, avec l'aide du SNU, 10 000 jeunes par an pour effectuer un service militaire de 6 mois. Le 31 août 2022, au cours du séminaire gouvernemental, Elisabeth Borne a annoncé dans la feuille de route des armées un investissement accru dans le service national universel. La gendarmerie active ses associations de cadets de la gendarmerie. Une petite pause histoire de digérer cette première partie d'information.
Oui, j'ai ma casquette en fait, tantôt. Oui. Ouais. On vous dirait qu'on se fait pas.
Ok.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, l'émission antimilitariste contre toutes les guerres, sur Radio Libertaire 89.4.
Et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudit que soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. La rue des Lilas, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudit que soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant voir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis danser le dapqué pour repousser la mort, trinquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, verser mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudit que soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre, c'est un massacre, c'est un massacre qui ne
de ce corps de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent, mais qui ne se massacrent. La guerre, c'est un massacre, de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, comme vous dites, soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, l'émission contre toutes les guerres. Pas de soldats, pas de guerre. La guerre n'apporte aucune paix. Et comme disait Louis Lecoing, on n'élabore pas une société humaine sur des monceaux de cadavres. Les sociétés humaines, entre guillemets, que nous connaissons à l'heure actuelle, ne le sont pas encore vraiment. Le processus d'humanisation de notre espèce est très très lent en fonction de la lenteur de l'évolution de nos cerveaux et de nos ciboulots. Elsa va poursuivre sa présentation de la situation actuelle du Service National Universel.
Donc, la gendarmerie active ses associations de cadets de la gendarmerie. Pour accueillir le plus possible de jeunes qui ont besoin de faire leur mission d'intérêt général, pour valider leur SNU, la gendarmerie crée des associations dans le Loiret, le Cher, les Vosges, le Lot, les Hautes-Pyrénées, partout où des gendarmes se mobilisent pour le SNU. Nous avons toujours des besoins de recrutement et à cet âge-là, déjà, on peut susciter des vocations. Ce sont des jeunes qui sont particulièrement sensibles à ces métiers, observe un gendarme.
Oh là 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 là.
En septembre 2022, sur sa page Facebook, la gendarmerie de l'Aude lance un appel. Si vous êtes âgé de 16 à 18 ans, les cadets de la gendarmerie de l'Aude recrutent dans le cadre de la mission d'intérêt général du Service National Universel. Le journal La Dépêche, du 5 octobre, annonce la rentrée pour les cadets de la gendarmerie au sein de la caserne d'Aubercy, de Limoux, dans l'Aude. 16 jeunes âgés de 15 à 17 ans, 13 filles et 3 garçons, ont intégré les rangs en chantant la Marseillaise à l'occasion d'une cérémonie des couleurs symboliquement organisée en présence de leurs parents, des militaires de la compagnie, ainsi que des cadres d'actifs et de réserve. 6 d'entre eux effectuent leur mission d'intérêt général dans le cadre du Service National Universel. Le commandant Thomas Jardin leur a présenté les règles de la vie militaire. On a appris à manipuler des armes, se réjouit un adolescent lors de la visite de Sarah El Haïri à la caserne de gendarmerie Richemont à Nantes. Sarah El Haïri déclare pourtant à un journaliste du Parisien qui lui parle de ceux qui s'inquiètent de la militarisation de la jeunesse. Le SNU n'est pas du tout un service militaire. C'est un service civil et citoyen. On n'y apprend pas le maniement des armes, mais le sens de l'engagement.
Et oui, avec des croissants.
Oui. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a déclaré à Ouest-France le 13 juillet 2022 au sujet du SNU « Je ne vois pas ce qu'il y a de militaire dans les activités qui sont proposées aux jeunes. »
Ah oui.
On comprend qu'il est mal informé.
Bien sûr.
Ce programme est bel et bien une entreprise de militarisation de la jeunesse et non l'encouragement à l'exercice de la citoyenneté, déclare Nara Cladera, co-secrétaire fédérale de Sud Éducation. Dans l'atmosphère guerrière, les gouvernements s'apprêtent à embrigader la jeunesse. En Allemagne comme en France, dans un climat de tension intempérialiste et de crise économique, il s'agit de préparer la population et surtout la jeunesse à ne pas rompre les rangs de l'Union nationale, à accepter voire soutenir le militarisme rampant, déclare l'éditorialiste de Convergence révolutionnaire. Dans une tribune de plusieurs membres du collectif non au SNU publiée en juillet, on peut lire « Ce projet exhale ainsi de discrets remugles de la période des chantiers de jeunesse, instrument de la Révolution nationale de Pétain, créée le 30 juillet 1940. S'il est exagéré de voir dans le SNU une pâle réplique de ces derniers, celui-ci partage néanmoins avec eux la vaste ambition d'inculquer à la jeunesse l'esprit de discipline ainsi que le sens de l'autorité et de l'obéissance. Juridiquement improbable, économiquement déraisonnable, politiquement inacceptable, le SNU ne peut qu'appeler une entière réprobation de notre part. C'est pourquoi nous disons et dirons inlassablement non au SNU. La Fédération CNTFO Éducation et Recherche affirme dans un communiqué: ce service militaire allégé, avec un stage en internat et en uniforme de 15 jours, pourra ouvrir à une intégration ultérieure dans la réserve militaire. Alors que le contexte mondial est de plus en plus guerrier et que les armées ont besoin de troupes, cette remilitarisation progressive de la jeunesse n'est pas anodine et doit être combattue fermement. Sarah El Haïri, colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie depuis 2019, d'après le site La Voix du Gendarme, a déclaré le 20 septembre que l'objectif est le plein déploiement du service national universel. Mon ministère aura un budget réservé aux cadets de la gendarmerie pour apporter des aides financières là où il y a des besoins. Pour déployer le SNU, le ministère de l'Éducation nationale a prévu déjà dans le budget 2023 une enveloppe de 140 millions d'euros, plus 30 millions d'euros par rapport à 2022. Je me demande où ils trouvent l'argent, c'est incroyable. Les militaires estiment que le service national universel va consommer des crédits entre 1,7 et 4,1 milliards. Cher pour un gadget, d'après le journal La Tribune du 27 septembre.
Ça, c'est sûr.
Le budget SNU va augmenter de 30 millions en 2023 par rapport à 2022. Sera-t-il suffisant? Interroge le journaliste du Parisien. Oui, c'est suffisant pour faire partir au moins 64 000 jeunes, répond Sarah El Haïri. Et pourtant, même en organisant 4 séjours de cohésion en 2023 au lieu de 3 en 2022, il n'est pas certain que le nombre de jeunes volontaires soit atteint après le fiasco de l'année 2022. Parmi les oppositions au SNU, dans le combat syndicaliste mensuel de la CNT de juin 2022, un article intitulé « Le SNU, c'est nul » et la reproduction de nombreux tracts non au SNU produits par CNT Construction. Dans le Canard enchaîné du 13 juillet, Fanny Ruiz-Guindo titre son article un service national minimum 20 malaise à Besançon pareil à Nevers 10 à Dieppe. Les cérémonies du 18 juin organisées entre midi et 2h en pleine canicule ont fait fureur. Au total, 31 participants ont fini aux urgences selon l'éducation nationale qui aux côtés des armées gère l'intendance, chiffré à 2140 euros par jeune, largement plus que 2 semaines en colo. Le SNU coûtera 1,7 milliard d'euros lorsqu'il mobilisera 800 000 jeunes par an, selon les vœux du président Macron. Le 5 octobre, Odile Meniyakoulder, pardon pour la prononciation, titre son article « Le service national de Macron piétine en race campagne » et après une liste des dysfonctionnements, termine par « Le SNU, service national ubuesque ». Dans l'Obs, du 17 octobre, le journaliste note « Ce projet est loin de faire l'unanimité parmi les syndicats lycéens et dans les armées déjà très employés sur de multiples fronts. » Benjamin Lucas, député écologique NUPES des Yvelines, et Sandra Regol, députée écologiste NUPES du Bas-Rhin, ont publié un communiqué de presse à l'Assemblée nationale du 13 juillet 2022, révélation de RUE 89 Strasbourg, il faut en finir avec le SNU. Une nouvelle fois, le SNU montre qu'il est une réponse inadaptée aux urgences quotidiennes et aux grands défis qui se présentent à notre jeunesse. La République et ses valeurs ne s'inculquent pas par des dispositifs de service militaire low cost. Rodrigo Arenas, député insoumis NUPES de Paris 13e, avait publié un article lorsqu'il était président de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, sous le titre « SNU, garde à vous, fixe !» Il annonce au collectif le 19 septembre 2022 « Je compte porter le débat sur le SNU dans les semaines à venir par la voie législative et budgétaire. N'hésitez pas à me faire parvenir des informations qui pourraient vous arriver sur ce sujet, je suis preneur. » Le collectif Non au SNU s'est réuni le 23 septembre et a proposé plusieurs actions. Des réunions d'information en direction des parents d'élèves et des enseignants. Il est possible d'utiliser pour l'animation les vidéos SNU en brigandement des jeunes en accès libre sur YouTube. Des contacts et des interpellations auprès des députés intéressés par le SNU, notamment les députés de la NUPES, Benjamin Lucas, Sandra Régol, Rodrigo Arena, Louis Boyard, qui se sont déjà exprimés sur ce sujet. Des contacts avec les journalistes de médias régionaux informés sur les séjours de cohésion et les missions d'intérêt général, ainsi que les journalistes des médias nationaux comme Le Canard Enchaîné, Mediapart, L'Humanité, Le Monde Diplomatique, Politis, etc. Des contacts avec des juristes pour préciser le droit des enfants mineurs qui ne doivent pas subir une punition collective humiliante imposée par des militaires comme cela a été le cas en juillet 2022 dans le lycée de Strasbourg où s'entraînaient avec des armes comme dans certaines missions d'intérêt général assurées par des gendarmes ou des policiers. Redéfinir la mission de la formation de la citoyenneté dans laquelle l'armée ne doit pas intervenir car c'est le travail de l'éducation nationale. Insister sur le respect du droit de l'enfant et les résolutions des Nations Unies. Prévoir des actions le 11 novembre, comme cela se fait déjà depuis plusieurs années avec les pacifistes. Dénoncer la présence des jeunes du SNU auxquels on inculque la glorification de l'armée. Essayer le plus possible d'associer les lycéens et les étudiants aux actions ou réunions organisées pour dénoncer le SNU. Rappeler les menaces de la guerre aux frontières de l'Europe pour exposer aux adolescents les risques de s'engager dans les réserves de l'armée. Ils pourraient être ensuite appelés à verser leur sang pour la patrie.
C'est ça.
Il faut dénoncer la banalisation du SNU, qui est une préparation à la guerre, en parlant des déserteurs des armées russes, biélorusses et ukrainiennes,
voilà,
qui prennent des risques pour refuser la guerre.
Voilà.
Dénoncer le SNU à l'occasion du congrès du mouvement de la paix qui aura lieu les 18, 19 et 20 novembre à Tours.
Absolument. Et ce corridor humanitaire que Olga appelle de ses voeux, l'Europe doit l'ouvrir pour permettre aux objecteurs de conscience et aux déserteurs de Biélorussie et d'ailleurs de se sauver et de ne pas intégrer les armées aux côtés de la Russie, ni d'un côté d'ailleurs, ni de l'autre. La Biélorussie veut rester en dehors de ses activités guerrières, ni d'un côté, ni de l'autre. Pas de soldats, pas de guerre. Et les querelles ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un seul côté. Alors je vous donne la première lettre du nom de l'auteur. Elle commence par un L. 17e siècle, la Fronde. Alors,
une petite plage musicale
avant de continuer. Bien sûr, tu as raison. Après, on va vous parler du statut juridique des objecteurs de conscience depuis 1916.
La traduction.
Ah oui, pardon. Merci, Ariel. Vous allez entendre maintenant une chanson écrite et chantée par un très célèbre auteur allemand, Reinhard May, qui a fêté ses 80 ans. C'est un pacifiste antimilitariste d'Outre-Rhin. Et dans cette chanson, ce sont des pères qui disent « Vous n'aurez pas mes fils. Vous n'aurez pas mes fils. Quelles que soient les difficultés qui les attendent, ils n'iront pas prendre un fusil. »
Denk, ich schreib euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ich habe sie, die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wert dafür zu töten und zu sterben? Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht,
bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
In Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht, und das heißt auch sie vor euch zu bewahren. Meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit gegen jeden Befehl auf zu belehren und nicht zu profilen vor der Obrigkeit.
Ich werde sie lernen, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, vor keinem als sich selber klar zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Und hier werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht, ehe mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Non, vous n'aurez pas mes fils, criaient ces chanteurs amis de Renate Maille, et c'est un long combat qui nous attend, qui existe depuis des siècles, pas sous l'appellation objection de conscience, mais le refus de tuer a fait beaucoup de héros ou de martyrs depuis des milliers d'années, essentiellement pour des convictions religieuses. Mais entrer dans la loi, officiellement, en des termes juridiques, ça remonte à pas très longtemps. Ça a commencé en Suède en 1902, et là, ce n'était que pour des raisons religieuses. En 1916, au Royaume-Uni, ce terme est entré dans la loi. Conscientious objection, l'objection de conscience, pas seulement pour des raisons religieuses, mais pour des raisons philosophiques, morales et de convictions personnelles. Et cette date doit vous indiquer que Gandhi, l'influence de Gandhi a joué un très grand rôle, l'influence de la non-violence qui commençait à faire son chemin dans les esprits en Afrique du Sud et en Inde. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui que la Russie, que la Biélorussie, que l'Ukraine aient inscrit ce droit dans leur constitution, comme bien d'autres pays, européens notamment, et beaucoup ne l'ont toujours pas fait. C'est-à-dire, nous avons fait du chemin, mais nous sommes encore loin du compte. Et pour terminer, je voulais vous rappeler, ceux qui connaissent un peu la problématique de l'objection de conscience, mais aussi peut-être pour ceux qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, je voulais vous lire l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui parle de la liberté de penser, de conscience et de religion. Et c'est ironique, une ironie de l'histoire, parce que la liberté de penser s'attache aussi à Martin Luther, un protestant qui ne voulait pas se soumettre à la doxa du pape au XVIe siècle, et donc qui parlait de la liberté du chrétien de penser comme il veut. Eh bien, maintenant, nous avons l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dit: toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa conviction ou sa religion ne peut faire l'objet d'autre restriction que celle qui, prévue par la loi, constitue des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Voici donc l'article 9, et qui est développé dans un paragraphe consacré à l'objection de conscience. Le droit de ne pas agir contre sa conscience et ses convictions. Cet article 9 ne mentionne pas expressément le droit à l'objection de conscience, ni dans le domaine militaire, ni par ailleurs dans le domaine civil. Et c'est ce qui fait sa fragilité. La Cour a toutefois jugé que les garanties de cet article s'appliquaient en principe à l'opposition au service militaire, lorsque celle-ci était motivé par un conflit grave et insurmontable entre l'obligation de servir dans l'armée et la conscience d'une personne ou ses convictions sincères et profondes de nature religieuse ou autre. Je fais encore une parenthèse pour vous rappeler que la plupart des gens qui sont actuellement jetés en prison en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, ce sont des témoins de Jéhovah, qui sont parmi les chrétiens les plus radicaux et quelquefois les plus vilipendés aussi, parce qu'on leur reproche une certaine radicalité. Mais ce sont des témoins de Jéhovah qui, à travers tout le XXe siècle, dont la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ont été exécutés, tués, décapités sous le nazisme, parce qu'ils refusaient catégoriquement de faire leur service militaire. Eh bien, ça continue encore à l'heure actuelle. Voici, je voulais vous dire cela pour conclure notre émission. Et donc, lorsqu'il s'agit de trouver la faute, on trouve toujours la faute chez notre ennemi. C'est de sa faute. C'est la faute de Poutine d'avoir agressé l'Ukraine. Eh bien, Poutine, il dit, c'est la faute de l'OTAN d'avoir avancé ses pions de plus en plus à l'Est. Avec ça, on va pas en finir, la guerre. Si
Biden a fait l'erreur de bouger ses missiles, et Poutine a fait l'erreur de prendre prétexte. C'est une erreur qu'il a. Les deux sont fautifs.
Tout à fait.
Les deux sont fautifs. Il n'y a pas qu'un fautif par rapport à l'autre. Les deux sont fautifs.
Tout à fait. Et La Rochefoucauld n'a pas tort d'avoir dit, donc il y a 400 ans, les guerres ne dureraient pas longtemps si les torts n'étaient que d'un côté. Des deux côtés, il faut vraiment être humble et vouloir négocier correctement et en plus, honnêtement.
Oui, et en plus, la Biélorussie, elle avait préparé. Les articles lus démontrent que la Biélorussie avait tout préparé pour cette guerre actuelle en Ukraine. Elle avait tout préparé. Poutine n'attendait qu'un prétexte et Biden lui en a donné un.
Oui. Et le raisonnement humain est ainsi fait qu'on peut toujours trouver des justificatifs, des arguments. Si nous sommes bien déterminés de commettre des actes. Et ici, dans cette guerre, c'est pareil. Il faut créer du calme et venir à la table de négociation. Merci de votre écoute. Vous pouvez nous écrire et vous abonner à l'Union Pacifiste en nous écrivant à l'adresse que je vous ai mentionné tout à l'heure, mais je vous donne le téléphone de la librairie Publico au 145 rue Amelot, où nous sommes présents. Téléphone de la librairie Publico 01 48 05 34 08. C'est même ouvert souvent le dimanche après-midi. Renseignez-vous. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de vous en inspirer pour ne pas vous endormir avec toutes ces fêtes. Et je remercie beaucoup Elsa de sa contribution.
Avec plaisir.
Et merci beaucoup aussi à Ariel d'avoir fait un super choix de musique. Et puis, passez de bonnes fêtes, prenez de bonnes résolutions, restez en bonne santé, n'abusez pas d'alcool et devenez des pacifistes qui ne se découragent jamais.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.